L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Voilà, bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Voilà, nous nous retrouvons dans ce parcours pour l'évangile pour le couple. Nous étions à partir du texte de Matthieu 19, nous étions en train de parcourir la Genèse et on avait parcouru le premier et deuxième chapitre de la Genèse et on avait été émerveillés par les desseins, par cette vocation absolument géniale au bonheur pour le couple, cette communion, le sens de la sexualité, etc. Mais alors c'est vrai que, à tant mot qu'on voit les réalités, on est complètement décalé. Ça y est, nous les chrétiens, on est complètement partis dans les nuages. Et est-ce qu'on est complètement déconnecté de la réalité? Ou au contraire, déjà du temps de Jésus, effectivement il y avait un décalage entre ce que disait Jésus et les apôtres, ou alors ça fait partie de notre 21e siècle? Dis-nous un peu, dis-nous tout.
Je crois qu'on va continuer cette lecture du texte de Matthieu 19. Où justement, après cette aspiration magnifique dont on a parlé, on va lire quelle est notre réalité d'aujourd'hui, ce que nous vivons tous. Alors vous vous souvenez que Jésus était en train de parler avec les pharisiens qui lui demandaient qu'est-ce qu'on devait faire en cas de divorce. Donc il se réfère à la Genèse en disant à l'origine il n'en était pas ainsi, puisque Dieu a souhaité que l'homme et la femme soient unis et demeurent ensemble et jubilent dans cet amour. Alors les disciples sont pas non plus des intellos finis, sont des gens simples qui étaient vraiment proches de la réalité. Ils savent très bien que ce que dit Jésus c'est très charmant, mais il faut quand même se rendre à l'évidence. Donc ils l'interpellent, ils lui disent « Mais si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas expédient de se marier. » Il leur dit « Tous ne comprennent pas ce langage, mais cela à qui c'est donné. Ainsi, il y en a qui sont nés eunuques du sein de leur mère, il y a des eunuques qui sont devenus par l'action des hommes, il y en a qui le sont eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Qui peut comprendre ? Qu'ils comprennent. »
Ça, c'est d'une parole géniale. Vraiment, parce que on n'est plus dans le discours entre le bon Jésus et les méchants pharisiens. Non, les pharisiens disparaissent de la scène et c'est une discussion entre les apôtres, entre les colonnes de l'Église. Je veux dire, c'est quand même pas n'importe qui disent à Jésus, mais attends, ce que tu dis, c'est pas réalisable. Et Jésus, on pourrait se dire, mais c'est que Jésus allait les encourager, mais si, vous vous rendez pas compte, etc.
Courage,
on va y arriver avec beaucoup d'efforts, etc. Ah non, pas du tout. Jésus est en train de dire, effectivement, cela n'est réalisable qu'à ceux à qui c'est donné. Qui peut comprendre, qu'ils comprennent. Et on comprendra qu'au travers de tout l'enseignement de Jésus, c'est qu'effectivement, si à la Genèse, nous sommes, entre guillemets, nous avons les gènes pour vivre cette révélation extraordinaire, du fait, effectivement, du péché, c'est ce qu'on va approfondir aujourd'hui, effectivement, c'est complètement irréaliste. De nous-mêmes, c'est tellement difficile. Vivre cette révélation, on ne peut vraiment l'accueillir, la vivre dans la fidélité, dans la joie, dans le crescendo, que si vraiment on accueille cette révélation de Christ et on comprend justement le pivot de la révélation chrétienne. C'est pas le refuge des bons chrétiens qui respectent la morale, qui respectent toutes les règles, etc., etc. C'est d'abord l'accueil, l'Église est d'abord le recueil des bras cassés de l'amour, de ceux qui savent pas, de ceux qui n'en peuvent plus, de ceux qui sont bien conscients qu'ils n'y arriveront pas de leur propre force. Et c'est justement le constat comme quoi cet évangile du couple et cette parole du couple rejoint tellement notre monde d'aujourd'hui, rejoignait déjà le monde des apôtres, parce qu'il y a déjà 2000 ans, les apôtres disaient Jésus, mais t'es cinglé ou quoi là, t'as vu dans quoi on vit, etc. Déjà il y a 2000 ans, alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui? voyez ce qu'on évoquait, combien aujourd'hui ont du mal à vivre leur vie conjugale malgré leurs aspirations.
Voilà, il y a une immense aspiration qu'on porte tous en nous, et d'ailleurs les sondages, chaque année, quand il y a des sondages sur le sujet, on a effectivement les mêmes résultats. Je crois que c'est 85% des jeunes de la génération des 18-25 ans, leur aspiration numéro un, c'est l'amour dans un couple fidèle, stable, jusqu'à la fin de leur vie.
On ne parle pas des enfants, de familles chrétiennes, etc. Non, on parle voilà, l'humanité, voilà, les Français, de cet âge-là.
L'aspiration qui est fondamentale, et je crois qu'elle traverse toutes les cultures, elle traverse toutes les étapes de l'humanité, depuis la création de l'homme et jusqu'à la fin. Ben voilà, notre aspiration, c'est réaliser cet appel au bonheur dans l'amour, et l'amour d'un homme pour une femme et d'une femme pour un homme.
Voilà. Alors que, quelle est la réalité ? Quelle est la réalité ? Aujourd'hui, on connaît aussi les chiffres. On est sur la région parisienne. Je crois que c'est un couple sur deux qui divorce. Enfin, il y a un divorce pour deux mariages. Mais là aussi, pire, si on peut dire, ce qu'on évoquait l'autre jour, c'est que la projection, c'est qu'il y a quasiment 9 couples sur 10 qui ne finira pas sa vie ensemble. Ça veut dire que c'est, allez, mission quasiment impossible. Ah, c'est plein d'espérance, hein, c'est une émission. Alors là, Radio Chrétienne, mais voilà, est en train d'annoncer que c'est la cata. Bah oui, mais ça, c'est la réalité, ça. On n'est pas en train de se la raconter, on n'est pas en train de disserter, en train de dire, voilà. Ce qui est finalement l'aspiration la plus profonde et inscrite dans le cœur des jeunes, etc., eh ben, c'est la plus difficile. Quel est aujourd'hui le couple, chrétien, pas chrétien, qu'importe, quel est le couple qui va se dire, voilà, on va fonder une famille ensemble, on va se mettre ensemble, qui va se dire, oh, bah, tiens, dans 5 ans, dans 10 ans, 15 ans, on va divorcer. Mais non! Qu'ils en aient, chacun en a la crainte. Chacun, surtout, mais pourvu que ça marche, je vais essayer de tout faire pour que ça marche. Et vous croyez qu'à un moment, quand il y a 9 sur 10 qui vont se séparer, c'était parce qu'ils étaient indifférents? Non. Il y en a, bien sûr, c'est indifférent, et qui tournent à droite, à gauche, etc. On va, pour le moment, peut-être pas parler de cela. Parce que la très grande majorité de nos contemporains, de nous tous, on aspire profondément, chrétien ou non chrétien, on aspire à vivre le bonheur. À vivre le bonheur conjugal, à vivre le bonheur familial. Et on se rend bien compte que malgré toutes les aspirations qu'on a, on n'arrive pas à aimer l'autre. Et que finalement celui qu'on a choisi pour bâtir notre bonheur, mais on n'y arrive pas, et on n'y arrive pas, et on se blesse, et on se comprend pas, et à un moment on s'insupporte, etc., etc. Et ben ça voilà, c'est bien sûr peut-être très dilaté dans notre société. Mais c'était déjà du temps de Jésus, ça fait partie de notre humanité, c'est donc l'expérience de notre péché. Quand on va parler péché, effectivement, la grande majorité dit, mais non, ça c'est les vieux machins de chrétiens, c'est pas du tout ça, il faut appliquer ça par la psychologie, patati patata, bon. Mais dans notre couple, dans chacun de nos couples, on le sait bien qu'à des moments, au-delà de nos désirs, etc., on voit bien qu'on blesse l'autre, qu'on n'arrive pas à aimer l'autre. Et ça, on ne faut pas se raconter des histoires. On sait bien que, et les uns et les autres, on a du mal à s'aimer et à s'accepter.
Voilà, je crois que c'est ce qu'on essaie de vous partager aujourd'hui, même si ce n'est pas facile. La foi chrétienne ne vient pas par un coup de baguette magique nous placer dans une sorte de je dirais, d'environnement ouateux, où tout va bien, tout le monde s'aime. Non. Soyons lucides, la réalité, c'est que toute personne qui vit en couple le confirmera, j'en suis sûre, on bute en permanence sur notre incapacité d'aimer l'autre. Et on bute en permanence sur des blessures, mais involontaires, qu'on se fait. Voilà, celui avec qui j'ai décidé de partager ma vie, celui à qui je confie tout, celui à qui je me donne, ben c'est celui-là que je vais blesser le plus. Mon Dieu, mais quelle expérience tragique! Et c'est lui qui va me blesser. Mais il va me blesser à un tel point que, à la limite qu'un collègue de travail me dise un truc pas sympa, bon, ça passe encore, même si c'est un peu difficile à avaler. Mais quand c'est mon conjoint, quand c'est celui que j'ai choisi, quand c'est le père de mes enfants, quand c'est mon amant qui, dans son incapacité à trouver les mots justes, va me blesser, mais je vis une expérience extraordinairement tragique. C'est que j'ai confié tout mon bonheur dans les mains de quelqu'un, et que je suis déçu. Et voilà l'expérience que tous nous partageons.
C'est ça qui est vraiment... Il faut vraiment pouvoir nommer les choses. On n'est pas là à faire la dissertation sur les belles choses. Le Seigneur vient de rejoindre notre profonde humanité, notre expérience. Et qu'effectivement, au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, eh ben, celui pour qui ou celle pour qui vraiment on avait une joie, une intimité qu'on a choisi vraiment dans l'exultation, eh ben, c'est difficile, c'est l'incompréhension, c'est un mur qui s'est construit. Et ça, c'est malgré les désirs, c'est ça qui est important de souligner. C'est que malgré notre désir de vivre en profonde communion, de construire notre bonheur ensemble, nous voyons que nous sommes profondément limités les uns les autres. Et c'est déjà la reconnaissance qu'en avaient les apôtres. Et c'est le sens, bien sûr, aussi de la parole de Jésus, qui est une parole qui ne fait pas fi de ce constat. Il prend acte de ce constat. Mais il va nous inviter à l'espérance qui va être ce don de Jésus dans nos vies de couple. Quel que soit notre cheminement, notre histoire d'amour religieuse, le Seigneur vient nous rejoindre par ce don. On se retrouve un peu plus tard.
There's no one else.
Voilà, on va essayer de continuer justement sur ce chemin de pour bien voir combien il est difficile d'accueillir le cœur de cette révélation, combien l'expérience humaine nous démontre que ce fantastique mystère et révélation de Genèse 1, Genèse 2, c'est si difficile à vivre. Alors justement, avec Maud, on va essayer d'approfondir justement le sens de l'expérience qui est révélée en Genèse 3, l'expérience de notre péché, qui imprime profondément notre nature. Tu veux essayer de nous présenter un peu ce troisième chapitre de la Genèse et nous en tirer la substantifique moelle.
Voilà, alors les deux premiers chapitres, on a vu donc ce dessin merveilleux, on en a parlé les fois précédentes, dans nos rencontres précédentes, et voilà qu'on arrive à cette situation tragique de ce qu'on appelle la chute, c'est-à-dire le péché de l'homme et de la femme en Genèse 3. Alors qu'est-ce que c'est que ce péché? On va essayer de l'éclairer par la parole de Dieu. C'est ce fameux chapitre que vous connaissez, que beaucoup d'entre vous connaissent, où on parle de l'interdit de Dieu. Et voilà que dans le jardin du paradis, Dieu avait dit à Adam et Ève, profitez de la vie, servez-vous, mangez, buvez, célébrez votre amour, réjouissez-vous, simplement, cet arbre-là, n'y touchez pas. Et voilà, cet interdit-là était un interdit positif. Comme on dit à un enfant, ne mets pas ta main sur le four, tu vas te brûler. C'est pas pour lui dire, le four est interdit, c'est pour dire, attends, quand tu seras plus grand, tu sauras l'utiliser et tu risques moins de te blesser. Et voilà que la pédagogie de Dieu, ça n'a pas tellement plu à l'homme et à la femme. Ils avaient envie, tous les deux, finalement, de vivre leur vie, comme beaucoup de nos contemporains. Dieu, très sympa, mais qui reste là-haut. Moi, je vis ma vie et j'ai besoin de personne. Et si je vais moi-même faire mes expériences. Et voici finalement le cœur de l'expérience humaine de Genèse 3. C'est finalement, nous on est d'accord que peut-être on a été créé par une force, une transcendance, quelque chose. Mais j'ai envie de vivre ma vie, j'ai envie de décider moi-même ce qui me convient et ce que j'ai envie de faire. Et comment, entre nous, on va décider de s'aimer. Alors il y a ce fameux récit, la tentation, où le serpent s'approche de la femme. Bien sûr, la femme, alors on a entendu énormément de choses sur cette tentation pour la femme. Pourquoi la femme? C'est tout simple, c'est parce que la femme est spontanément tournée vers l'avenir, vers la vie, vers la question existentielle. Si le serpent avait été tiré la manche de l'homme en train de cultiver sa terre, il l'aurait envoyé balader et il avait peu de chances de succès. Donc la femme était plutôt réceptive à une interrogation qui porte sur des choses tellement profondes et tellement existentielles. Et voilà que le serpent va commencer à travestir la réalité. Dieu avait dit, vous ne mangez pas cet arbre, et le serpent va transformer cet interdit et le grossir. Alors Dieu vous a dit, vous ne mangez pas et vous ne touchez pas. Voilà, c'est cette façon toujours de transformer la réalité pour rentrer dans un piège qui est très profond, qui est finalement le piège que nous partageons tous, qui est le piège de l'orgueil. Non. Et c'est moi qui sais, c'est moi qui désire, c'est moi qui décide, et c'est mon orgueil qui va guider ma vie.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quel est le cœur de l'expérience d'Ève et d'Adam lors de cette expérience de ce qu'on appelle la chute, de cette expérience de cet arbre qui a été goûté?
Voilà, alors cet arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est en fait l'arbre de la vie dans lequel nous sommes plongés, la vie réelle, historique, dans lequel le bien et le mal sont confondus, mélangés. Et en fait, ce mélange n'est pas facile. La preuve, si jamais je te dis, Alex, tiens, dans ta situation, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? C'est pas toujours évident, on en discute, oui, mais si on prend sur ce point de vue-là, c'est peut-être bien, mais sur ce point de vue-là, c'est peut-être pas bien. On a du mal à discerner, on est dans une espèce de mélange. La réalité n'est pas tout blanc, tout noir. On est tout le temps dans le gris, finalement, avec différentes couleurs. Le gris, parfois, est nettement noir, parfois, il est nettement blanc, mais parfois, on sait pas très bien où on est. Donc, en fait, cette réalité historique dans laquelle on est plongé, c'est la réalité de nos vies que Dieu voulait nous donner le temps de découvrir en ayant un peu des outils pour savoir justement décider et sentir ce qui était juste et ce qui n'était pas juste. Sauf que nous, on a voulu brûler les étapes et décider tout seul. Je suis assez grand pour savoir. Et donc, je préfère choisir cette autonomie et ne pas dépendre de Dieu pour savoir ce qui est bien et pas bien.
Voilà. Et puis, je crois aussi, ce qui est vraiment très important, c'est que c'est le fond de l'âme, du péché de l'âme humaine, c'est qu'à un moment, je vais faire ma vie sans Dieu. Je serai non plus à l'image de Dieu, mais je serai comme Dieu. Et c'est justement cette expérience intime de l'homme, de la femme, qui à un moment va dire, bah finalement je fais ma vie tout seul. Je suis mon propre créateur, je suis mon propre Dieu. Et l'expérience de ce péché, de cet orgueil, de cette volonté de puissance, eh bien justement va conduire Ève à ne pas respecter cette entre guillemets cette loi universelle, cette loi de la liberté en fait, puisque c'était la loi du discernement aussi proposée par Dieu. Et à ce moment-là, et Adam aussi va suivre Ève dans ce refus de respecter cette invitation à la liberté et au discernement de Dieu. Et c'est ça qui est très impressionnant, et comme quoi ça c'est un lien directement avec la vie conjugale, parce que il y a à ce moment-là une expérience nouvelle de la nudité. C'est que, revenons un petit peu en arrière, en Genèse 2, justement cette félicité, cette joie, il est dit, ils étaient nus l'un devant l'autre, ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Parce que nos regards, c'était lumineux, il y avait cette intimité de cœur, d'esprit et de corps, il y avait une harmonisation entre tous les différents niveaux de notre nature. Et l'expérience du péché va venir fracturer justement cette unité à la fois personnelle et à la fois aussi conjugale, et il va créer cette opacité. Et donc effectivement, à ce moment-là, on va se regarder, on a honte l'un devant l'autre, on a honte de soi-même, et donc il y a une fracture intérieure, une fracture dans notre communion. Et ça va, c'est ce qui va justement, je dirais, inscrire en nos vies, en nos cœurs, l'expérience d'une nouvelle nature. Alors que nous étions justement dans cette harmonie, dans cette bénédiction, dans l'expérience de cette bénédiction originelle de la Genèse, l'expérience du refus de Dieu, du refus, entre guillemets, de la loi divine, va inscrire, bien au-delà de la faute en tant que telle, va nous introduire dans une expérience, je me dis, ah oui, anthropologique également, une nouvelle expérience anthropologique qui va comme voiler cette nature originelle. Et c'est ça qui va être dramatique dans nos vies personnelles, mais aussi dans nos vies conjugales. Ce qui signifie au niveau de la honte, on voit bien que ça va fracturer notre communion conjugale, notre sexualité, et donc illustrer toute cette fracture. Et donc, voilà cette expérience qui va effectivement nous voiler le trésor de la révélation.
Oui, je pense qu'on peut revenir sur cette histoire de regard, parce que c'est fondamental dans un couple. Le regard de Adam vis-à-vis d'Ève était un regard pur, transparent. On dit innocent. Innocent, ça veut dire qui ne nuit pas, qui ne blesse pas, qui ne trouble pas. Donc, dans le projet de Dieu en Genèse 2, l'union de l'homme et de la femme, la transparence des cœurs, faisait qu'il y avait une lumière évidente qui unifiait le corps, l'âme et l'esprit. Toutes les dimensions de la personne humaine étaient unies. Donc il y avait cette transparence qui faisait que quand toi, Alex, tu regardes moi, Maude, eh ben, ce regard ne m'agresse pas. Au contraire, il crée de l'amour, il crée du dynamisme, il crée la vie. Et après cette expérience de la chute, ben, tout va être transformé. Et on va expérimenter là une blessure qu'on prendra le temps de détailler dans notre prochaine rencontre, qui va être justement tout ce qui concerne les conséquences de cette initiative malheureuse d'Adam et Ève qui se sont laissés avoir, entre guillemets, par le serpent.
Mais je pense que c'est important de bien souligner que finalement ces trois premiers textes de la Genèse nous montrent un peu les éléments profonds de la dramaturgie humaine, mais aussi de la dramaturgie conjugale. C'est dans nos gènes, notre nature, pourrait-on dire, à un niveau anthropologique, théologique, qu'effectivement nous sommes des êtres de fantastique bénédiction, appelés à être image de Dieu, à la fois au niveau de la personne, à la fois au niveau du couple, et à la fois notre refus, qui est inscrit aussi dans notre nature, et bien fait qu'à un moment, cette tension, cette bénédiction, et bien, on l'a quittée, Et c'est ce qui fait effectivement, on avait commencé cette émission à propos de l'expérience faite des apôtres, qui dit mais attends, mais c'est pas réalisable. Et ben voilà, on a l'explication du non réalisable. Parce qu'effectivement, il y a eu cette fracture du péché originel qui effectivement nous éloigne tellement de pouvoir expérimenter facilement ce trésor qui nous est confié en Genèse 1 et Genèse 2, qui nous est révélé en Genèse 1 et Genèse 2. Mais voilà. Ça sera à la semaine prochaine. On avancera justement dans cette compréhension plus intime de cette fracture. Il faut la comprendre pour comprendre après là où Jésus vient nous sauver et vient nous libérer. Et c'est pas une mince affaire.
Voilà, à la semaine prochaine. On sera heureux de vous retrouver pour poursuivre cette découverte de la Genèse.
The intimate friendship of the Holy Spirit.